Et bienvenue sur le cours de F6KGL. Donc ce soir, on va voir un nouveau chapitre qui va concerner les courants alternatifs. Et on va voir tout ce que l'on peut dire sur les courants alternatifs, sachant que jusqu'à présent, on n'avait vu que les courants continus et que dans le monde qui nous intéresse par la suite, donc le monde de la radio, on ne parle que de courants alternatifs et plus précisément de courants périodiques, on va voir. Comment se présentent ces choses-là? Alors, déjà, on peut dire un courant alternatif ou un courant périodique. Alternatif, ça, c'est moins parlant que périodique. Alternatif, on sent bien qu'il y a du plus et du moins, ou que ça se, il y a des périodes positives et des périodes négatives, alors que périodique, c'est quelque chose qui se reproduit à l'identique périodiquement. Hein. Donc, c'est ça qui différencie le courant alternatif du courant continu. Jusqu'à présent, tout ce qu'on avait vu sur les résistances, c'était applicable et uniquement applicable au courant continu. C'est-à-dire que le courant, il va dans un sens, du plus vers le moins, de là où il y en a le plus vers là où il y en a le moins. Et donc, le courant périodique ou alternatif, c'est toutes les autres formes de courant particulières. Alors, on appelle un courant alternatif ou périodique, mais la plupart du temps, tout le monde va parler de courant alternatif. Le courant change continuellement de valeur au cours du temps, alors qu'en courant continu, il ne change pas de valeur. Ma pile, elle sort 9 volts, et c'est vrai qu'au bout d'un bout de temps, elle va sortir 8,5 volts, mais ça ne va pas. Bouger. Alors que le courant alternatif, lui, change continuellement de sens. Tout au moins de valeur. Peut-être pas de sens, mais au moins de valeur. Et ça, il change continuellement au cours du temps. Et d'autre part, très important, c'est pas le fait que ça change continuellement, c'est surtout que la forme du signal se répète. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un signal aussi périodique. Et c'est pour ça que je préfère utiliser le terme périodique pour bien montrer la répétition, plutôt que d'utiliser alternatif qui veut dire ça va, ça vient, mais on ne sait pas trop. C'est pas parce que ça va, ça vient que pour autant c'est périodique. D'accord ? Hein, ça va, ça vient parce que en fonction de différents éléments, mais pour autant c'est pas périodique. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça se répète. Et c'est ça qui est très important. Et donc les courants alternatifs, ils peuvent prendre plusieurs formes. Là, je vous en ai sorti quelques-unes. Donc le signal carré. Donc le signal passe dans un sens, puis tout d'un coup, on a un inverseur, grosso modo, et il passe dans l'autre sens. Donc ça c'est du signal carré. Il passe dans un sens, puis après, avec un petit inverseur ou un relais, ça change complètement. Donc ça c'est un signal carré on voit bien il se répète périodiquement. Signal triangulaire, c'est un petit peu plus sioux, c'est à dire que ça monte, puis après ça descend, mais de manière régulière ici, hein, on a une pente et quand ça change de sens, ça change de sens brutalement. Voilà, donc ça c'est un signal triangle. Signal qui ressemble un petit peu, qui n'est pas réellement triangle, c'est un signal d'onde scie. C'est-à-dire que ça augmente, puis tout d'un coup, pof, ça revient à zéro, et ça réaugmente, et ça repasse à zéro, etc. À chaque fois, vous voyez bien que la forme du signal se répète régulièrement. Hein, on a toujours la même forme, et donc, pour ça qu'on appelle ça des signaux périodiques ou alternatifs. On peut aussi avoir des signaux impulsionnelle, donc une impulsion régulière, donc une impulsion qui est très courte, mais qui se répète régulièrement dans le temps. Et ça, c'est, encore une fois, un signal alternatif. Ce qui est important, c'est que lorsque l'on superpose plusieurs courants alternatifs, la résultante, alors plusieurs courants alternatifs de même fréquence, c'est mieux, parce que sinon ça va se compliquer, mais lorsque l'on superpose plusieurs courants alternatifs, eh bien, eux-mêmes vont donner des courants alternatifs. Exemple, on va commencer par la superposition d'un carré et d'un triangle. Donc là, alors il faudrait décaler légèrement mon triangle là et le mettre ici à l'endroit où ça change de valeur. Donc si on met ça en phase ici, le triangle, la pointe du triangle avec le changement ici de polarité de mon signal carré. Si j'additionne mes deux signaux, et évidemment il faut qu'ils soient de même fréquence, sinon ça ne marche pas, voilà ce que ça va donner. Donc, lorsque je superpose un carré et un triangle, alors ça va me donner encore une troisième forme de signal, mais on voit bien, encore une fois, que c'est périodique. D'accord ? Donc, alors c'est plus compliqué, on pourrait aussi imaginer rajouter, le don de scie, etc., etc., et peut-être pas en phase d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de les mettre en phase. Là, pour obtenir ce signal-là, je suis aussi obligé de mettre en phase la pointe du triangle ici avec le changement de phase, de côté ici de mon signal carré, mais si j'additionne ces deux signaux-là, 2 à 2, évidemment, ça va me donner une autre forme de signal. Voilà. Donc, mais qui sera encore une fois périodique. Voilà. On peut aussi superposer un courant continu avec un courant alternatif. Exemple, mon signal carré, là, par définition, le signal carré, j'ai ici une tension positive, on va dire n'importe quoi, plus 3 volts, puis après une tension négative, moins 3 volts. Donc plus 3 volts, moins 3 volts, plus 3 volts, moins 3 volts. Mais si je superpose à ce signal carré un courant continu, je vais me retrouver avec cette forme-là, ici avec le 0 volts, et par exemple ici j'ai 4 volts, le milieu ici est à 4 volts, donc je vais me retrouver à plus 7 volts, plus 1 volt, plus 7 volts, plus 1 volt. Voilà. Donc vous allez avoir encore une fois un signal périodique. Alors là, on ne peut pas dire que ça vient, ça va toujours dans le même sens, mais le signal se répète. C'est-à-dire que ça va fort dans un sens, puis moins fort dans le même sens, etc., etc. Donc on ne peut pas dire, et c'est pour ça que j'aime pas ce terme, même si on va l'utiliser partout après, ce terme de signal alternatif, parce que ce courant, donc cette superposition de courant alternatif et de courant continu, c'est aussi un courant alternatif, même si ça alterne pas, puisqu'on n'a pas de tension négative. D'accord ? En revanche, le terme de périodique est bien adapté, puisque là, on voit bien, il y a une période et que ça se répète. Voilà. Donc ça, ce sont des courants qui sont très classiques. Le courant carré, le courant triangle, d'Ancy un peu moins, mais voilà, impulsionnel, nous, radioamateurs, on l'utilise très très peu, tout au moins que dans les expériences, mais... En règle générale, on a un peu de mal à faire passer du signal sur une modulation, tout au moins, ou une information sur du signal impulsionnel. Le signal impulsionnel, on va l'utiliser essentiellement dans les radars et ce genre de choses. Mais donc, on ne va pas transporter de l'information. Et donc, nous, radioamateurs, on va très peu l'utiliser, ce mode. En revanche, alors carré, densi et triangle, même si on ne va pas les utiliser en termes de modulation, mais on va les utiliser en termes de données. Quand on va pouvoir envoyer de la donnée, on va utiliser ce genre de signaux. Même s'ils ne sont pas aussi beaux, on va les utiliser. Et puis on a, parce que là je vous ai présenté les formes de courants alternatifs les plus connus, mais on en a encore plus connu, qui est un peu particulier, c'est le signal sinusoïdal. Le signal sinusoïdal, donc, il utilise la fonction sinus, la fonction sinus, elle a la propriété mathématique d'être la forme la plus régulière, donc sans à-coups, des signaux alternatifs. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est le mouvement qu'on va trouver dans la nature très, très facilement. Je ne sais pas, moi, le balancier de l'horloge de la Contoise, c'est un mouvement sinusoïdal. Qu'est-ce qu'on a encore? Le moteur à explosion, là, c'est aussi un mouvement sinusoïdal, voilà. Alors que Cyril qui pose la question, l'impulsionnel, c'est le tout ou rien. C'est pareil, on peut aussi faire du tout ou rien, mais on peut aussi mettre des modulations dedans. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'impulsionnel, on émet très peu de temps. Et donc, la plupart du temps, nous, ce que l'on veut, c'est quand même passer du message. Voilà. Et tel que vous l'avez vu, l'impulsionnel, c'est de l'impulsionnel carré, tel que vous l'avez vu, et c'est pas de l'impulsionnel sinusoïdal, comme on voit là. Donc, c'est encore un peu spécial. Donc là, on va voir la représentation d'une fonction sinus. Je pense que ça va être du rappel pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, il y a des termes à connaître, ou tout au moins à se rappeler, pour bien comprendre comment fonctionne une fonction sinus. Donc vous oubliez un petit peu ce que je vous ai dit sur les fonctions carré, triangle, etc. Et vous les gardez bien dans un coin de votre tête, parce que on va en reparler souvent. Et donc ma fonction sinus, la voilà. Une fonction sinus, c'est quoi? C'est un point, c'est un cercle, c'est mon fameux cercle trigonométrique, dont le rayon ici est 1, c'est une valeur unitaire, 1, et sur ce cercle trigonométrique, j'ai un point imaginaire qui tourne à vitesse constante ou pas, mais nous, dans notre signal sinusoïdal, il va tourner à vitesse constante, et donc c'est mon point M, là, et donc il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, très important. Donc c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Et alors Cyril qui dit le Morse c'est de l'impulsionnel, pas du tout. Ce n'est pas de l'impulsionnel. Le Morse ce n'est pas de l'impulsionnel, on verra ça à la fin. C'est du tout ou rien, mais pas impulsionnel. Impulsionnel, c'est vraiment des très petites impulsions, justement, du style une microseconde ou quelques microsecondes. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'un point en Morse. Voilà. Donc, pour mon signal sinusoïdal, donc il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle le sens trigonométrique. Et évidemment, si ça tourne dans l'autre sens, mais ça ne tourne jamais dans l'autre sens, ça s'appellerait le sens horaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le sens trigonométrique. Et ce que je vais faire là, je vais, en fonction de mon point là, qui tourne autour de mon cercle, je vais définir, puisqu'il tourne à vitesse constante, ici j'ai le temps. et j'ai la hauteur ici de mon point qui va se mettre ici, et cette hauteur-là, qui va définir ici la hauteur de ma courbe, c'est le sinus. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une fonction sinusoïdale. Ici, de ce côté-là, vous avez le cosinus. Alors, ça, c'est quand on veut faire des mathématiques et calculer des tas de trucs qu'on va voir par la suite. Mais ce qui nous importe, nous, c'est le sinus. Mais de toute façon, sinus et cosinus, c'est exactement la même chose, parce que si je mesure ici la largeur plutôt de mon cosinus, en fait, je vais avoir mes courbes qui vont être du coup verticales ici, au lieu d'être horizontales, et elle va avoir strictement la même forme, sauf qu'elle va être décalée d'un quart de tour. C'est tout. Donc, comme mon cercle a par définition un rayon de 1, eh bien, comme vous savez que la circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon, eh bien, le tour complet de mon cercle fait 2 fois pi, en partant du principe que mon rayon, c'est 1. Et donc, lorsque j'ai fait la moitié d'un tour, j'en suis ici à pi, donc je dis que je suis ici à pi, ou autre moyen aussi d'exprimer ça, je suis ici à 180 degrés. Si je ne suis qu'au quart, eh ben du coup je suis à 90 degrés, ou je suis à pi sur 2. Et lorsque j'arrive ici, que j'ai presque fait mon tour complet, hein, j'en suis à 3 quarts de tour, ici je suis à 3 pi sur 2, et évidemment j'arrive ici, j'arrive à 2 pi, qui est aussi l'origine 0. Donc ça tourne. Et ce qui m'importe, moi, c'est de savoir à quelle hauteur je me trouve. Voilà. Important ici, pour mon 3 pi sur 2, ça correspond à plus 270 degrés ou moins 90 degrés. C'est-à-dire que je peux aussi dire, enfin, le fait de dire je suis à moins 90 degrés, ça veut dire qu'il me reste 90 degrés pour arriver ici à zéro. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors que si je suis ici à plus 90, c'est-à-dire que j'ai dépassé 90 degrés au-delà du zéro. Puisque, encore une fois, mon point ne tourne que dans un seul sens. Voilà. Et donc ça, c'est mon signal sinusoïdal. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Oui, là, ici, donc, quand je regarde ici ma valeur, ici, donc, je suis à pi sur 2, j'ai un maximum, je reviens ici à pi, je repasse par 0, et à 3 pi sur 2, je suis à moins 1. Et après, je reviens ici. Donc ici, sinusoïde, là, ici, ça s'appelle une période, puisque mon signal, il est périodique. Donc ici, ça s'appelle une période. D'accord ? Ça, c'est le terme. Alors évidemment, ça se répète, hein, puisque ici, j'ai une période, ici, une deuxième période, ici, une troisième période. Voilà. Ici, ça, c'est une période. Quand on est en signal sinusoïdal, on a aussi une notion de dire je suis dans une alternance ici négative, puisque ici elle est négative, et ici une alternance qui est positive. Voilà. Parce que là, c'est un signal sinusoïdal pur qui n'est pas superposé avec un courant continu. Hein, là, c'est ma fonction de base, de principe. Évidemment, mon courant sinusoïdal, je peux le superposer à un courant continu, et donc du coup, bah, il va, cette valeur là, si j'ai par exemple 2 volts, et donc ici 1 volt et 1 volt, ça va aller de 3 volts, puis 2 volts, puisque je reviens par 0, donc j'additionne seulement ma valeur continue, et ici je reviens à 1 volt. Voilà. Donc ça, c'est si j'additionne un signal sinusoïdal avec une tension continue de 2 volts, et que mon signal sinusoïdal, donc à 1 volt en valeur ici crête. D'accord ? Donc c'est 1 volt crête ici, mais aussi 1 volt, enfin moins 1 volt crête ici. Mais ça ne veut rien dire moins 1 volt crête. On dit toujours 1 volt crête, puisque par définition, ils ont les mêmes valeurs en plus et en moins. Donc une fois qu'on a défini la valeur positive, automatiquement la valeur négative arrive. Ce qui va aussi nous intéresser, donc c'est la durée d'une période, et plus particulièrement la fréquence. La fréquence, lorsque je mesure ici le nombre de périodes, la fréquence, c'est le nombre de fois que j'ai cette période par seconde, ou autre manière de voir aussi, le nombre de fois que mon point aura fait de tour en une seconde. C'est la même chose. C'est la même représentation. Et donc ça, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. La fréquence, elle a été définie en Hertz. Et Hertz, c'est en hommage à Heinrich Rudolf Hertz, qui a mis en évidence la première fois les ondes électromagnétiques. C'était en 1888. C'est le fameux éclateur de Asphère que vous avez dû sûrement voir il y a très longtemps. Moi, j'avais vu ça quand j'étais au lycée, donc ça fait quand même un certain temps. Et il y avait un éclateur à sphère dans le labo de physique qui montrait comment ça marchait. Et évidemment, il fallait que les sphères ne soient pas trop loin l'une de l'autre pour que ça fonctionne. Mais voilà. Donc c'était donc Rudolf Hertz qui a montré que les ondes faisaient passer le courant d'un éclateur à un autre petit éclateur qui est un peu plus loin, et donc on voyait bien les petites étincelles qui étaient à distance. Et donc c'est ce qui montrait qu'il n'y avait pas de fil, et que pour autant l'énergie était transmise aux sphères qui étaient juste à côté. Voilà. Donc ça, c'était l'éclateur à sphère de Hertz. C'était une expérience de laboratoire, bien entendu, qui n'a donné strictement rien du tout. Dans un premier temps, c'était juste une expérience de laboratoire. Alors, le quoi de qui ? C'est l'éclateur à sphère de Hertz. Voilà, vous cherchez ça sur Internet, vous allez voir, il y en a partout. Vous allez voir ça. Et donc, c'est le premier instrument qui démontre qui met en évidence les ondes électromagnétiques. Et c'est une vingtaine de... c'est une quinzaine d'années avant le vraiment début de la radio avec Marconi. Donc ça, c'est donc le Hertz. Et évidemment, l'inverse du Hertz, c'est la durée de la période, parce qu'évidemment si on dit par exemple j'ai pour le 50 Hertz par exemple, notre courant alternatif fourni par monsieur EDF, la durée de la période c'est 1 divisé par 50, donc si vous faites ça, alors il faut peut-être sortir la calculette, mais ça fait donc 20 millisecondes. Donc toutes les 20 millisecondes, vous avez cette courbe-là qui est visible si vous passez par l'oscilloscope. Ce qui veut dire que au bout enfin, chaque alternance dure 10 millisecondes. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et il y a énormément, il y a pas mal de questions de transformation, soit d'une fréquence en période, ou de la période en fréquence. Et donc, là, ce qu'il faut utiliser sur la calculette, c'est 1 divisé par. Alors, évidemment, si vous avez des multiples, n'oubliez pas les puissances de 10. Donc, si vous êtes en mégahertz, eh ben, ça va vous donner des durées de période très petites. Hein, 1 mégahertz, ça va correspondre à 1 microseconde pour la durée de la période. Et plus on monte en fréquence, évidemment, plus la durée de la période est courte. Donc ça, c'est les deux. Hein, les deux vont ensemble. Hein. La fréquence. Et donc la fréquence aussi, c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse de la durée de la période. Hein, plus la durée de la période est petite, plus la fréquence est élevée. Et enfin, on a la pulsation. Alors la pulsation, c'est quoi? C'est la distance qu'aura parcouru ici le point en une seconde. Et donc la pulsation, on va le voir, on va en parler quand on va voir les bobines et les condensateurs, c'est 2 fois pi, donc c'est mon tour complet, multiplié par la fréquence, donc ça veut dire que c'est la distance théorique qu'aura parcouru mon point pendant une seconde. D'accord ? Autre manière aussi de voir les choses qui est un peu plus mathématique, il se trouve que la surface ici que j'ai mis en grisé ici, elle fait précisément 1. Hein ? Puisque là, c'est donc la vous reprenez vos équations mathématiques et vous allez voir qu'ici, cette surface-là, elle fait 1. Et alors que pour la durée d'une seconde, ici, ma surface que j'ai hachurée ici, du coup, elle va faire 2 pi f. Elle va faire, si on considère ici qu'on comprend toujours la même unité 1, la même unité qu'ici, là, cette longueur-là, eh bien, ici, je vais avoir une longueur qui fait 2 pi f. D'accord ? Et donc, la pulsation, c'est cette durée-là. Donc, la pulsation, c'est l'inverse de cette durée où on a cette particularité, quoi. Et donc, c'est un petit peu ce qui va définir le temps de réaction de la fréquence. D'accord ? Donc, c'est un truc assez particulier et qu'on va revoir quand on va utiliser, quand on va voir en détail pour calculer l'impédance d'une bobine ou d'un condensateur. On va se rappeler de ce truc-là. Alors, paniquez pas si vous ne comprenez pas. Ce qui est important, c'est d'apprendre cette formule. Encore une fois, à l'examen, on ne demande pas de comprendre toutes les formules. On vous demande juste de les appliquer. Et donc, ce qui est important, la pulsation, c'est donc 2 fois pi fois f. Voilà tout ce que l'on peut dire sur le courant alternatif, tout au moins sinusoïdal. Je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Alors, voilà les questions. Typiquement, les questions d'examen. Donc, quelle est la pulsation d'un signal dont la fréquence est de 10 MHz ? Donc la pulsation, encore une fois, c'est 2 fois pi fois f. Et donc 2 fois pi fois f, c'est donc... Alors 2 fois pi, vous allez le savoir par cœur au bout d'un moment, pi c'est 3,14, et donc 2 fois pi c'est 6,28. Donc plutôt que de taper 2 fois pi, vous tapez tout de suite sur votre calculette 6,28, et évidemment, vous multipliez par la 10 millions, puisque ce sont des mégahertz, et donc ça vous donne le chiffre astronomique de 62 800 000. Alors, on appelle ça des radians par seconde. Alors, Cyril qui dit « c'est dur de comprendre », là, malheureusement, ça va être très compliqué d'expliquer les pulsations, d'où vient cet esprit mathématique. Ça vient des dérivés des sinus. Donc si on commence à faire, enfin c'est les dérivés et les primitives des sinus. Donc si on commence à faire des mathématiques, je sens que je vais perdre tout le monde. Voilà. Donc si ça vous dit, vous cherchez si vous connaissez les dérivés et les intégrales des sinus et des cosinus, vous allez comprendre, sinon vous allez un peu avoir de mal. Mais voilà. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, ma pulsation, quand j'exprime ici ma distance en nombre de pi, on va appeler ça des radians. Hein, donc, voilà, c'est des radians, et la pulsation, c'est en radians par seconde. Donc, ici, quand j'ai fait un tour complet, eh ben, j'ai 6,28 radians. Hein, puisque mon tour fait 6,28. Et donc, 6,28 multiplié par 10 000, ça me donne 62 800 radians par seconde. Ce qui veut dire que quand on parle de pulsation, c'est finalement la même chose que c'est une autre manière de définir une fréquence. En fait, c'est la même chose qu'une fréquence, sauf que vous multipliez par 6,28 pour obtenir des radians par seconde, et non pas puisqu'une fréquence, c'est défini par des périodes par seconde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vieux postes à lampe, on appelait ça auparavant on appelait ça des cycles, juste après-guerre, on appelait ça des cycles. Et donc la fréquence, elle n'était pas donnée en hertz, elle était donnée en cycles par seconde. Et donc la fréquence, ou en kilocycles par seconde, quand on était plutôt que de dire kilohertz. Et ou en mégacycles par seconde aussi, enfin bon, c'était un peu plus. Généralement, on s'en tenait au kilocycle par seconde. Et donc le kilocycle par seconde ou la pulsation en radians par seconde, on voit bien que c'est bien la même chose. Si ce n'est qu'entre les deux, il y a une différence qui est de 6,28, c'est tout. Mais la fréquence en elle-même ne va vous servir à rien. Donc tout ce que l'on va faire dans les calculs sur les courants alternatifs et les fréquences et les bobines et les condensateurs, à chaque fois qu'on va avoir une fréquence, systématiquement, on va avoir le 2π qui vient avec, donc le 6,28 qui vient avec. Parce que les fréquences sont plutôt définies en radians par seconde et non pas en période par seconde. Donc, ça c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2. Ah bah oui, évidemment. Alors, STT, c'est pas vraiment S, mais bon, c'est pas grave. Moi non plus, j'ai pas fait S, hein, je vous rassure. Mais j'ai appris. Et je serais infoutu de vous faire la démonstration. Donc, vous me croyez sur parole. Exemple 2. Quelle est la fréquence en kilocycle d'un signal sinusoïdal composé de 5 alternances durant 15 microsecondes? Alors là, je vais vous proposer. Alors, malheureusement, j'ai pas foutu en route ma webcam. Plutôt, moi, je l'ai pas mis comme il faut. Donc, il va falloir réfléchir, mais normalement, c'est quelque chose qu'on voit plutôt sous forme schématique. Quand on parle de 5 alternances, c'est donc 2,5 périodes, hein, puisque une période est formée de 2 alternances, et on parle aussi d'un signal sinusoïdal, donc il n'y a pas de débat. Un signal sinusoïdal, par définition, il a deux alternances qui forment une période. Donc 5 alternances, ça forme deux périodes. Et donc ce signal, qui dure donc 15 microsecondes, il est composé de 5 alternances. Donc pour calculer une période, je vais faire 15 microsecondes divisé par 2,5, qui est le nombre de périodes. Donc si je fais 15 microsecondes divisé par 2,5, je sors ma calculette, et là, ça me donne 6 microsecondes. À partir de là, puisque je sais que ma période va durer 6 microsecondes, je peux calculer la fréquence, et je fais 1 divisé par 6 microsecondes. Donc je fais 1 divisé par 6, 10 puissance moins 6. Et si je tape ça sur ma calculette, on va avoir en résultat, alors 1,66 10 puissance 5, que je traduis, puisque je connais parfaitement maintenant ma table de conversion, donc ce 1,66 10 puissance 5, je le traduis en 166 kHz. Ou je tape aussi 1,000006, pas se tromper de 0, sinon ça marche pas. Et dans ce cas-là, ça me donne 166,666. Et donc, 166,666, évidemment, encore une fois, c'est 166 kHz. Mais, comme vous voyez, j'ai arrondi, puisque normalement, 166,666, ça devrait me donner 167, et non pas 166 quand j'utilise les arrondis. Mais, peu importe, vous n'allez pas avoir dans les réponses 166 et 167, vous aurez l'un des deux, mais vous aurez par contre 16,6 et 1667, ça c'est certain. Au cas où vous vous étiez planté d'un zéro et que vous ayez mal compté vos zéros. Voilà. Donc, alors évidemment, ça c'est une question qui est un peu plus tordue. Il y en a peu quand même, je vous rassure. La plupart des questions tournent autour de... On donne la fréquence et on demande donc la durée de la période, ou inversement, on a la durée de la période et on demande la fréquence. Alors ça, c'est de la mathématique aussi. Pour le moment, on ne va pas s'en servir, mais on va s'en servir énormément quand on va passer au traitement numérique du signal. Parce que on a eu un mathématicien français de génie, alors il n'a strictement rien à voir avec la radio, avec l'électricité même. C'était un mathématicien pur et dur. Et ce mathématicien, c'est Joseph Fourier. Et donc, lui, il a travaillé sur la décomposition des fonctions périodiques, et notamment donc les fonctions sinusoïdales. Et donc, ce joyeux mathématicien, il a démontré quand même en 1820, c'était il y a un bout de temps déjà, en 1820, je rappelle, 1820, on avait juste découvert la pile et pas encore mis en évidence l'intensité. Donc Oersted n'avait pas encore fait son bricolage avec son fil et sa boussole. Et donc Fourier a démontré que toute fonction périodique, donc typiquement la fonction sinus, est la somme de fonctions toute fonction périodique, qu'elle soit sinusoïdale ou pas, est la somme de fonctions sinusoïdales dont les fréquences sont multiples de la période. Ce qui veut dire en clair que à partir d'un nombre assez important, en l'occurrence pour certaines fonctions mathématiques, à partir d'un nombre de périodes sinusoïdale et que ces sinusoïdes sont multiples entre elles et soient multiples aussi de la fréquence du signal périodique. Donc tout ça mis bout à bout Donc Fourier a démontré que ces fonctions, cette somme de fonctions sinusoïdales permettait de créer n'importe quelle autre fonction qu'on a vue tout à l'heure, donc un carré, un triangle, un dent de scie, tout ce qu'on veut. Alors évidemment, il y a des bémols, c'est-à-dire qu'il y a en théorie un nombre infini de fonctions sinusoïdales dont les fréquences sont multiples de la période du signal à reproduire. Mais ça c'est très important, ça veut dire qu'on peut créer n'importe quelle forme de signal périodique à partir de fonctions sinusoïdales et uniquement à partir de fonctions sinusoïdales. Ça c'est super important et qui derrière on va avoir des conséquences énormes dans tout notre monde de la radio, puisque, encore une fois, si une fonction sinus n'est pas parfaite, donc c'est que c'est l'addition de plusieurs fonctions sinus, et que donc, on peut, du coup, on croit être sur une fréquence, et en fait, on émet sur une infinité de fréquences, parce que notre signal sinusoïdal émis n'est pas pur. S'il n'est pas pur, ça veut dire que ça devient un signal périodique non sinusoïdal qui lui-même est généré par des fonctions sinusoïdales de différentes fréquences. Et donc, voilà, on émet sur plusieurs fréquences à la fois. C'est cette démonstration qui va nous poser énormément de problèmes dans le monde de la radio. Alors là, on en arrive à une petite expérience. Donc, je vous ai mis ici un site qu'on va utiliser très régulièrement. Alors, juste un truc, il ne fonctionne pas sur Chrome. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment calé là-dessus. Il fonctionne encore sur Mozilla, j'espère encore un certain temps. Edge, je n'ai pas essayé. Mais voilà, donc quelquefois... Alors pourquoi? C'est que ça utilise Flash Player d'Adobe. Et je ne sais pas pourquoi, mais Chrome ne reconnaît plus Flash Player. Je ne sais pas pourquoi. Je sens encore une guéguerre entre les éditeurs. Voilà, donc... Je vais passer sur ce site. Alors, je l'ai préparé. Voilà. Alors, je vais vous mettre... Alors, je coupe ici le micro. Donc je reste comme ça. Ça a l'air de fonctionner. J'ai peut-être un peu trop de retour son. Voilà, que je vous casse pas les oreilles. Donc ici, j'ai un signal qui fait 440 Hz, qui est donc ici. Et ici, j'ai toutes les harmoniques. Donc l'harmonique 1, l'harmonique 2, l'harmonique 3, etc. Donc ici, si j'ai 440 Hz, je vais couper ici le signal parce que ça fout... ça casse les oreilles. Donc ici, si j'ai 440 Hz, ici j'ai 880, ici j'ai je sais plus combien, 1200 ou 1300 et des poussières, etc. etc. Ok, et là, ce que je vais faire, je remets le son et je vais rajouter l'harmonique 2. Vous voyez que 1, auditivement, ça a changé le son. Et d'autre part, ici, votre signal a changé. Je vais baisser un peu le son parce que ça me casse les oreilles de mon côté. Voilà. Je peux aussi changer la phase, c'est-à-dire décaler la phase. Ici, vous avez ici la phase. Donc vous avez le décalage de phase. Et quand je décale ma phase, je vois que je change à chaque fois la forme du signal. Mais remarquez bien que si je change la forme du signal, le son reste le même. Ce qui veut dire que les deux signaux, enfin tous ces signaux-là, sont traités de la même manière. Pour autant, le signal n'a rien à voir. Je pourrais rajouter un troisième, un quatrième, un cinquième. Évidemment, plus je monte en fréquence, moins c'est agréable. D'accord ? Donc là, j'ai coupé le son parce que c'est un peu, ça fait un peu mal aux oreilles. mais voilà. Donc, et là, vous avez une jolie, un joli signal périodique. Ben, cela s'explique. Oui, c'est que c'est Monsieur Fourier qui vous a expliqué ça. Il vous a parlé de superposition, mais il n'a pas parlé de phase. Donc, on peut superposer et en changeant en plus la phase, ça change la forme du signal. Et alors, on entend la même chose, c'est qu'en fait, votre oreille, elle n'est pas formatée pour entendre les différences de phase. En revanche, si vous mettez ça sur un ordinateur, lui, il va l'entendre, la différence de phase. Et donc, il va traiter votre signal de manière différente. Voilà, donc juste, mais que vous ayez bien cette notion, vous voyez que le fait de changer la phase, ça ne change pas la fréquence. Hein. Les fréquences que l'on entend sont bien les mêmes, mais par contre, visuellement, le signal n'a strictement rien à voir. Ce que l'on peut faire aussi, donc là je reviens sur ma fonction sinus, mais je peux, alors, dans ce joli petit site, là, en standard, on a une fonction carré. Donc là, je la mets en fonction carré, je vous mets le son. Voici la fonction carré. C'est pas très agressif comme son. Vous remarquez juste que la fonction carré, c'est uniquement des harmoniques impaires pour la générer. Donc si vous voulez avoir un signal qui ait la même tête en haut et en bas, donc en alternance positive, en alternance négative, il faut que vous soyez en phase et avec des harmoniques impair uniquement. Sinon, il suffit, si je change ici ma phase, et bien évidemment mon signal, vous remarquez qu'il a toujours la même son, mais par contre la tête n'a strictement rien à voir. Et enfin, par exemple, on a le signal triangle. Voici un signal triangle qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus approchant que le signal carré qu'on a vu tout à l'heure. Et je me suis amusé sur mon PDF là, à faire un signal d'Ansi voilà un joli signal d'Ansi et encore une fois c'est en phase, mais je peux aussi m'amuser à faire des déphases, et dans ce cas là vous voyez c'est encore déformé. Pour autant, c'est toujours le même son. Et vous remarquez aussi que c'est un signal ici qui est symétrique en haut et en bas. Et donc, encore une fois, je n'ai utilisé que des harmoniques impaires. Alors que si j'utilise ici mon signal d'Ansi, vous voyez que je suis obligé de mettre du pair et de l'impair. De mélanger les deux. Et d'en mettre encore un petit coup là. Allez. J'en ai mis trop. Voilà. Et là, j'ai un signal à peu près dans le si. À peu près. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Ça vous permet de bien comprendre. C'est bien toujours la somme des deux mêmes signaux. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on entend, l'oreille entend bien, ne fait pas de différence. Parce que ce sont deux fréquences différentes. Et c'est juste le déphasage qui fait que, visuellement, le signal n'a pas la même forme. Donc on peut aussi s'amuser à changer la fréquence ici. Là, ils ont mis le 440 Hz, donc le là. Mais on peut utiliser ce que l'on veut. Hein. Je reviens sur mon PDF. Donc là, voilà. Il y a plein de... Sur ce site, les figures animées pour la physique, là, il y a énormément de petits trucs comme ça. Vous tapez sur Internet « figures animées pour la physique » et vous tombez dessus. Il y a plein de trucs qui sont sympas. Pas que radio. C'est pas spécialement fait pour la radio. Mais je m'en sers pas mal parce que il y a aussi quelques circuits radio, enfin tout au moins deux composants électroniques. Et voilà. Donc voilà, ça j'avais fait un montage, enfin un truc au hasard là, donc voilà, ça donne un signal un peu n'importe quoi, avec des signaux qui étaient déphasés ou pas, enfin voilà. Donc là, et ça donne un son absolument horrible à entendre. Voilà. On en arrive, parce que maintenant qu'on a bien étudié ces fonctions sinusoïdales, vous allez me dire, alors je coupe l'audio du bureau, et vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien gentil, mais Emma Louadôme là-dedans, parce que si mon courant, si la valeur du courant ou de la tension change continuellement, je vais être un peu embêté pour faire fonctionner ma loi d'ohm, ne serait-ce qu'avec des résistances. Parce que du coup, comme la tension ne fait que de varier, eh ben, l'intensité aussi, elle va faire que de varier, et donc du coup, ben, je suis un peu perdu. Heureusement, on a les mathématiciens qui sont arrivés à la rescousse, et on a défini plusieurs valeurs. Encore une fois, ces valeurs, elles ne sont valables que pour les courants sinusoïdaux. J'insiste, je répète, mais je ne répéterai jamais assez, ce n'est valable que pour les courants sinusoïdaux et surtout pas pour les signaux carrés ou triangles ou Nancy. Enfin, tout au moins, après, il faut l'interpréter et de manière différente. Donc la première valeur, mais ça qui va nous servir à pas grand chose, c'est la valeur moyenne. La valeur moyenne d'un signal sinusoïdal, quand on reprend, parce que là je vais passer plutôt directement sur le slide, la valeur moyenne de mon courant sinusoïdal, bah, c'est zéro là, parce que j'en ai autant d'un côté que de l'autre. Donc quand j'aurai un grand nombre ici de périodes, ben je vais avoir autant de courants dans un sens que dans l'autre, ou autant de tensions positives et de tensions négatives, et donc la valeur moyenne, par définition, ben elle va rester ici à zéro. Donc la valeur moyenne d'un courant sinusoïdal, ben c'est zéro. Quand je suis, encore une fois, en courant sinusoïdal. Si je suis, par exemple, en courant en signal carré, ça peut être aussi zéro, en supposant que c'est bien carré et que mes deux longueurs de carré, enfin, ce soit vraiment un carré et pas une alternance positive plus longue qu'une alternance négative, ou inversement. Dans ce cas-là, c'est plus la moyenne, évidemment. La moyenne n'est plus au milieu. Même chose sur le triangle, on le sent un peu plus facilement que c'est régulier. Et par exemple, la Dancy, par définition, eh bien, la Dancy, la valeur moyenne de la Dancy, ça ne va pas être au milieu. Ça va être ailleurs, ça se calcule, mais ça va être ailleurs. Et ne parlons même pas de tous les courants qu'on peut mélanger, et à ce moment-là, ça se complique. Mais en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est que dans le courant sinusoïdal, la valeur moyenne, elle est nulle. Et vous me direz, bah ouais, alors à quoi ça sert ? Ben, ça va servir de temps en temps, ne serait-ce que pour nos petits instruments de mesure, du style des galvanomètres, qui, eux, ne savent mesurer que des valeurs moyennes. On verra ça beaucoup plus loin. Autre notion qui est importante ici, c'est la tension maximum. Alors, c'est ce qu'on appelle Umax, qui est donc ici. Et donc, cette Umax, qu'on va appeler aussi, histoire de vous embêter, on va l'appeler aussi U-crête. Donc, ça s'appelle Umax ou U-crête. D'accord ? Parce que, évidemment, il y a aussi une valeur que l'on va appeler crête à crête. C'est-à-dire, ici, du maximum, positif, au minimum, négatif. Donc ça, c'est U-crête, ou ici d'ailleurs, hein, ça marche aussi U-crête, puisque par définition, c'est symétrique. Hein, donc vous avez U-crête ici ou ici, et U-crête à crête, bah, c'est deux fois la valeur crête ou la valeur maximum. Puisque par définition, encore une fois, c'est symétrique. Donc, on a ces deux notions qu'on arrive à comprendre, et puis maintenant, eh bien, on essaye de faire fonctionner ma loi d'Ohm et ma loi de Joule, tant qu'à faire, avec des tensions et des intensités, parce que par définition, la résistance, ben, ça reste la résistance, et la puissance, ça chauffe toujours autant. Donc ce qui va bouger, c'est uniquement la tension et l'intensité. Et ce sont ces deux valeurs-là qui peuvent avoir des valeurs maximum, crête à crête, moyenne ou efficace. La valeur efficace, c'est la valeur pour laquelle on peut appliquer la loi d'Ohm. C'est quand même très bien. On est sauvé. Tout ce qu'on a appris dans les trois premiers cours, on va pouvoir le réutiliser. Comment calcule-t-on cette valeur efficace, que ce soit en tension ou en intensité, hein ? Là, ici, j'ai marqué la tension. Et évidemment, ça marche exactement de la même manière avec l'intensité. Lorsque j'ai ma valeur maximum que je mesure et que je veux obtenir la valeur efficace pour pouvoir utiliser ma loi d'Ohm, je multiplie par 0,707. En fait, je multiplie par une valeur inférieure à 1, parce qu'on sent bien que la valeur efficace, elle va être inférieure à la valeur maximum. Donc, ici, je multiplie par 0,707, ou, autre manière de voir les choses, je divise par 1,414. C'est pareil. Je multiplie par 0,707, ou je divise par 1,414. Et lorsque j'ai une valeur efficace, et que je veux avoir la valeur maximum, eh bien, je multiplie par 1,414, ou je divise par 0,707, comme vous voulez. Alors, c'est quoi ce 0,707 ou ce 1,414 ? Eh bien, ici, c'est la valeur du sinus de 45 degrés. Donc ici, je suis arrivé à mi-parcours, en clair, de ma valeur maximum. Et comme je suis à mi-parcours de ma valeur maximum, eh bien, c'est ma valeur efficace. Et encore une fois, cette valeur efficace, elle n'est valable que et uniquement avec du courant sinusoïdal. Si vous utilisez du courant carré, du courant triangle, tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Vous êtes obligé de passer par... Parce qu'évidemment, chaque fonction alternative va avoir son calcul de valeur efficace. Et puis bon, après, il y a des mathématiciens qui vont s'amuser à les... à calculer ça pour des fonctions complètement délirantes. Mais voilà, donc cette valeur efficace n'est valable uniquement pour du courant sinusoïdal. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Et donc, c'est bien les lois d'ohm et de joule. Donc, dès que vous avez une tension ou une intensité dans votre loi d'ohm ou de joule, il faut absolument la transformer en valeur efficace pour pouvoir utiliser votre loi d'ohm ou votre loi de joule. Sinon, ça ne marche pas. Ou tout au moins, si, enfin, vous allez trouver un résultat, mais qui ne sera pas bon. Donc, voilà. Et donc, il y a il y a pas mal de questions sur cette transformation, alors soit de valeur crête. Alors, le piège le plus classique, quand même, c'est les valeurs crête et les valeurs crête à crête. Parce qu'évidemment, dans les réponses proposées, vous allez avoir si vous avez mal compris ou lu trop rapidement votre question. Ça, c'est certain. Et donc, voyant la bonne réponse, vous allez sauter dessus en disant « ça y est, c'est bon, je l'ai », et non, ça ne sera pas la bonne. Donc faites très attention à ce piège de valeur crête et valeur max. Hein. Valeur crête égale valeur max. Donc, en revanche, crête à crête, c'est deux fois max. Voilà. Et pour ceux qui aiment bien les mathématiques, 1,414, c'est la racine de 2, donc racine de 2, et 0,707, c'est racine de 2 sur 2, ou 1 divisé par racine de 2, c'est pareil. Donc voilà. Mais souvenez-vous plutôt de 1,414 et 0,707. En plus, c'est des chiffres assez faciles à retenir. Donc voilà, autant utiliser ça plutôt que de s'amuser à calculer racine de 2 sur la machine, d'autant plus qu'encore une fois, tous les résultats des calculs, à chaque fois ce sont des valeurs arrondies, parce qu'évidemment on dit 1,414, mais pour faire simple, parce que derrière il y a encore pas mal de chiffres, et donc la calculette elle a tout ça en mémoire. Vous ne l'avez pas, et de toute façon, dans les questions, dans les réponses proposées, à chaque fois, c'est une valeur arrondie. Donc, ne cherchez pas la valeur exacte. Hein. Si vous trouvez, par exemple, 34,9, cherchez pas 34,9 dans les réponses. Si vous avez 35, ça sera celle-là. Alors, le 45 degrés, il sort d'où? Eh bien, bonne question. Joker. En tout cas, le 45 degrés, c'est la... Je suis arrivé à mi-parcours ici de mon cercle trigonométrique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise le 45 degrés. Les mathématiciens qui doivent être derrière, là, ils vont pouvoir vous faire une belle démonstration auquel je serai incapable de comprendre quelque chose. Voilà. Les questions classiques maintenant, par exemple, parce que maintenant qu'on a notre jolie formule, eh bien on va pouvoir utiliser transformer mes tensions ou mes intensités pour faire mes calculs sur ma loi d'ohm. Donc là par exemple, on me demande la tension efficace. J'ai une résistance qui fait 50 ohms et une intensité qui fait 1 ampère maximum. Donc 1 ampère maximum, je transforme ça en ampère efficace. Et donc 1 fois 0,707, je ne sors pas ma calculette, ça me fait 0,707 ampères efficaces. Et après, j'applique ma loi d'ohm, tout bêtement, donc 50, puisque U égale RI, donc R 50, I 0,707, et donc je fais 50 fois 0,707, ça me donne 35,35, voilà, alors Cyril qui, voilà, si... effectivement, le sinus de 45, c'est aussi le cosinus de 45, et ça me donne 0,71, mais il y a encore plein d'autres chiffres derrière. Hein. Voilà. Pour revenir à mon exercice, là, donc ma réponse 35,35 volts, et je pense qu'à l'examen, la réponse, ça sera 35 volts tout court, sans savoir ce qu'il y a derrière les virgules, ou 35,3, mais je ne pense pas qu'il y ait écrit 35,35. En revanche, vous allez avoir, par exemple, 70 volts, ou 50 volts, ou pour ceux qui auraient oublié de transformer les ampères max ou crête en ampères efficaces. Deuxième question, et là ça, c'est plutôt la loi de Joule maintenant, puisqu'on a une résistance dont on ne connaît pas la valeur, mais par contre on sait qu'il passe 2 ampères efficaces dedans, et qu'elle est alimentée par 14 volts maximum. Et donc là, pour calculer ma loi de Joule, donc P égale UI, il faut que je sois en valeur efficace, tant du côté de l'intensité que du côté de la tension. Côté intensité, pas de problème, ça y est déjà. Côté tension, 14 volts maximum, donc je multiplie par 0,707, ou je divise par 1,414, c'est pareil, et donc ça me donne à peu près aux alentours de 10 volts. Et donc la puissance, donc c'est 10 volts efficaces multiplié par 2 ampères efficaces, ça me donne 20 watts. Alors plus précisément, un tout petit peu plus que 20 watts si je transforme exactement mes volts maximum en volts efficaces sans arrondi. Mais c'est pas là le problème. Voilà les questions d'examen. Alors, ça c'est, j'ai mis ça en italique. Donc il y a, j'ai vu quelques questions, enfin je dois avoir vu 2 questions dessus. Donc, c'est pour vous dire que on peut faire des impasses là-dessus. En fait, là, mon propos, ça va être de dire, ok, ça marche en courant, on a vu comment ça fonctionnait en courant sinusoïdal. Maintenant, imaginons que je superpose un signal sinusoïdal avec une composante continue. Donc, typiquement, ici, mon schéma. D'accord ? Donc, ce schéma-là, évidemment, j'ai à la fois une composante continue, donc qui est positive, légèrement positive, et donc ma composante sinusoïdale, donc qui va de 4 à moins 1, donc elle fait 2,5 volts, enfin elle fait 5 volts crête à crête, et donc 2,5 volts max ou crête. D'accord ? Et donc, ma loi de d'ohm ou ma loi de Joule, elle va fonctionner à la fois avec la valeur continue et la valeur et le courant sinusoïdal. Et évidemment, les deux, eh bien, ça ne va pas s'additionner, ça serait trop beau. Et donc, la manière de solutionner ce problème, et ça, c'est valable que si on fait du courant continu avec du courant sinusoïdal, c'est d'utiliser cette formule. C'est-à-dire que la tension efficace totale de ce signal, c'est la racine carrée de la tension continue au carré plus la tension efficace de la sinusoïde au carré. Alors, donc il faut d'abord déterminer la tension continue et la tension sinusoïdale. La tension sinusoïdale, on vient de le dire, c'est ici crête à crête, on a donc 5 volts, hein, 4 à moins 1, ça me fait 5 volts crête à crête. Donc 2,5 volts max. Et donc 1,77 volts efficace. Puisque je multiplie mes 2,5 par 0,707. La composante continue du courant, ben c'est finalement c'est la moyenne. Donc c'est la moyenne entre 4 et moins 1, et donc c'est 1,5. Hein, puisque si je suis ici à 1,5, j'ai 2,5 au-dessus pour être positif et 2,5 en dessous pour être négatif. Voilà. Et donc là, ma composante continue, elle fait donc 1,5 volts. Et donc le total, c'est quoi ? C'est la racine carrée de 1,5 au carré plus 1,77 au carré. Donc je vous laisse avec votre calculette pour le faire. Et ça me donne donc 2,3 volts. Et c'est ces 2,3 volts efficaces, totaux, qui vont pouvoir être utilisés pour appliquer ma loi d'Ohm et ma loi de Joule. Encore une fois, pour moi, ça c'est du hors sujet, enfin, c'est hors programme. Mais comme j'ai vu deux ou trois questions sur l'intégralité quand même, hein, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas systématiquement une question comme ça à chaque examen. Mais voilà, il y en a eu, et alors soit vous passez, soit vous avez bien retenu la leçon, et voilà, vous répondez. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques, sachez que, en tout cas, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, déjà, c'est pas aussi simple que ça. Donc, parce qu'évidemment, dans les réponses proposées, je pense qu'il y a pas mal de trucs complètement aberrants. Et en tout cas, la bonne réponse est 2,3 volts. Voilà. Et c'est pas quelque chose de très intuitif. Ça, je vous le dis tout de suite. Et donc, ce 2,3 volts. Cette valeur efficace, elle n'est pas signée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est positif ou négatif, puisque par définition c'est efficace. Donc une tension efficace, on ne peut pas lui donner un signe, on ne peut pas lui donner un signe positif ou négatif, puisque par définition c'est un signal périodique. Et donc on n'applique que la loi d'Ohm sans pour autant donner un signe, comme on pourrait signer une tension qui est continue. Et évidemment, lorsqu'on a une superposition de deux signaux sinusoïdaux, ou lorsqu'on mélange des signaux sinusoïdaux du style du carré, du triangle, etc., alors là, je ne sais pas faire. Il y a déjà des gens qui savent faire, il n'y a pas de débat, mais c'est largement au-delà de ce qui est demandé à l'examen. Déjà, cette question-là, elle est tordue. Donc, non, voilà, on peut encore compliquer à souhait. Oui, et vous remarquez aussi que si on avait inversé le signal, c'est-à-dire s'il allait par exemple de 1 volt à moins 4 volts, donc il était retourné, eh bien si on prend la manière, enfin, cette manière de voir les choses et de prendre les valeurs, on retrouverait 2,3 volts. Et c'est normal, le signal aurait été juste inversé, pour autant, il a toujours la même valeur. Voilà, tout ce que l'on peut dire sur ces valeurs, ça c'est un truc très particulier, et encore une fois, si vous voulez faire l'impasse, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout pour vous alerter quand vous voyez ça, vous dire ouais, attention, il y a un piège. Hein, quand on a quand on superpose ce genre de signaux. Alors, petit rappel quand même, l'intensité, on ne l'a pas trop évoqué quand on avait vu les bases de l'électricité. Mais l'intensité, c'est une agitation organisée d'électrons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il n'y a pas de tension, les électrons, par définition, s'agitent. Et ils s'agitent de manière un peu diffuse, si bien que en moyenne, y en a autant qui vont dans un sens que d'autres qui vont dans l'autre. Donc tout se compense. Et donc, voilà, c'est juste une agitation, mais derrière, il ne se passe rien. Dès qu'on met une tension, automatiquement, les électrons commencent, ils s'agitent toujours, pas de problème, mais ils commencent à s'agiter de manière organisée. C'est-à-dire qu'ils vont tous dans le même sens. Ils bougent tous, comme un mouvement de foule, un peu dans un couloir du métro, voilà, c'est une agitation organisée. Alors que quand il n'y a pas de courant, eh ben, ils attendent la rame de métro, et donc ça s'agite, mais ça, grosso modo, ils ne bougent pas de place. Voilà. Pour faire simple. Et donc, mes électrons, eux, ils cheminent dans le sens du moins vers le plus. N'oubliez pas, les électrons sont négatifs. Et donc, ils vont dans le sens inverse du courant. Pas de chance, quand M. Ampère a défini son intensité, finalement, il l'a défini dans le mauvais sens. Il avait une chance sur deux. Un, il ne connaissait pas les électrons, ils n'avaient pas encore été découverts. Et donc, quand il a défini son courant, il s'est planté de sens. Il avait une chance sur deux, il l'a pas eu, il n'a pas pris la bonne. Et moralité, maintenant, nos électrons, ils vont en sens inverse du courant, puisqu'ils sont négatifs. Et donc ça, c'est quand on est en courant continu. Donc, courant continu, il y a une agitation organisée d'électrons. Alors, les électrons se déplacent beaucoup moins vite que le courant. Beaucoup, beaucoup moins vite. Enfin, le courant, que le mouvement. Alors, j'ai mis cette image pour que vous compreniez bien cette histoire. La propagation de l'agitation, donc ce que nous appelons, nous, le courant, c'est comparable un petit peu à la chute de dominos. C'est-à-dire que les dominos, quand ils tombent les uns sur les autres, là, ils se déplacent très peu. En revanche, et ils se déplacent lentement, en revanche, la chute des dominos, elle va beaucoup plus vite. Et c'est finalement, le courant, c'est plus comparable au mouvement, la chute de dominos, que le déplacement de dominos eux-mêmes. Et cette chute de dominos, elle se déplace à la vitesse de la lumière. Alors que les électrons, eux, sont beaucoup, beaucoup moins rapides. Ils sont beaucoup moins rapides. Et alors, en courant continu, ils se déplacent très lentement, beaucoup moins... Ben, tout est relatif, hein, mais ils se déplacent beaucoup moins vite que la lumière. En revanche, dès qu'on commence à être en courant alternatif, eh bien, sauf quand on est en 50 Hz, évidemment, ça se déplace trop... Enfin, le courant change trop peu de sens régulièrement. Mais quand on monte en fréquence, les électrons, ils ne bougent quasiment plus de place. En revanche, la propagation de l'agitation, elle... Eh bien, elle se déplace toujours à la vitesse de la lumière dans un sens puis dans l'autre, quand on est en courant alternatif sinusoïdal. Et donc, on va toujours. Et les électrons, donc, ils bougent plus de place, quasiment pas. En fait, on a l'impression qu'ils se retournent, quoi. Ils se retournent et c'est tout. Mais quasiment, ils ne bougent quasiment plus de place. Et donc ça, c'est quand on est en courant alternatif. Donc ça, pour que vous ayez aussi ça en tête, on va en reparler quand on parlera des semi-conducteurs. Donc les transistors, etc., comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, encore un petit peu d'histoire. Pour rappel quand même, les réseaux électriques, donc le réseau EDF, qu'on connaît, nous, ça a été développé grosso modo fin du 19e siècle, d'abord aux États-Unis et précisément à Manhattan, dans tous les immeubles qui venaient d'être construits. Pourquoi ? C'est que dans ces immeubles-là, il y avait des ascenseurs. Et que les ascenseurs, eh ben, ils fonctionnaient non pas avec des machines à vapeur, mais à l'électricité. Et donc, c'est concomitamment, si vous voulez, de la construction de ces immeubles que s'est fait sentir le besoin d'alimenter par une source d'énergie électrique ces immeubles. Et c'est Westinghouse qui se lance donc dans l'électrification de ces immeubles et qui prend avec lui un jeune ingénieur qui s'appelle Nikola Tesla, dont on a maintenant... le nom des voitures Tesla a été pris en hommage à Nikola Tesla, mais Tesla n'a jamais eu aucune société à son nom. Il a d'abord travaillé pour Thomas Edison, où il a développé des tas de trucs. Et puis après, Tesla a déposé des brevets, notamment pour des alternateurs, ce que Thomas Edison n'aimait pas. Lui, il était plutôt dynamo, donc alternateur courant alternatif, dynamo courant continu. Donc vous voyez bien que Thomas Edison, qui lui militait pour le courant continu, et Tesla, qui militait pour le courant alternatif, et finalement, on connaît le fin mot de l'histoire, c'est Tesla qui a gagné sur ce plan-là, puisque c'est ses travaux, donc les alternateurs, les transformateurs, etc., qui a permis l'électrification des immeubles de New York, et puis qui après, de tous les États-Unis. Et c'est Westinghouse donc qui a créé cette, qui était un entrepreneur, qui a créé cette, cet empire maintenant et qui est devenu le premier fournisseur d'électricité aux États-Unis. Voilà. Alors, il y a eu un film qui est sorti en 2017, je crois. Alors, le problème, c'est que ce film était produit par Harvey Weinstein, et vous connaissez ses mésaventures. Donc, 2017, il était en plein dans ses petits problèmes avec ses maîtresses. Et visiblement, j'ai essayé de voir, je ne l'ai pas trouvé de sortie en France, mais ce film, alors en anglais, c'était The War of Current, donc la guerre des courants. Et donc ça retrace l'histoire de, aux alentours de 1886, de ce trio, donc Tesla, Edison et Westinghouse. Alors je sais pas trop, enfin le pitch c'est évidemment l'électrification de New York, mais après je sais pas trop ce qui voilà si c'est intéressant comme film, si on apprend des choses ou si c'est encore un truc pseudo historique, voilà. Enfin en tout cas ce qui est certain c'est que Tesla Tesla c'est un truc extraordinaire. Tesla est donc né en Croatie et donc de nationalité autrichienne, puisque à l'époque la Croatie était autrichienne. Et donc Tesla émigre aux États-Unis puisqu'il avait des petits problèmes avec les Autrichiens, et donc il se fait embaucher chez Edison. Il travaille sur plusieurs projets qui débouchent sur des brevets, et ces brevets sont finalement pris par Thomas Edison. Thomas Edison, c'est par la société Edison. Et donc, Nikola Tesla est mort en 1943, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il est mort c'était un SDF, quoi, puisqu'il n'a strictement rien touché de tous les de tous les brevets qu'il a, enfin, auxquels il a participé. Et même chose avec Westinghouse, il a réussi à se brouiller avec Westinghouse, et donc, au bout d'un moment, Westinghouse l'a remercié, et pour autant, il a gardé l'idée de Nikola Tesla, qui était donc de développer le courant alternatif. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher ce film-là. Je ne sais pas s'il est, encore une fois, je ne sais pas s'il est sorti en France. On va en arriver à l'oscilloscope. Donc, on va voir juste après comment ça fonctionne. Là, je vous ai mis une photo d'un oscilloscope. Donc, un oscilloscope, c'est un instrument de mesure qui permet de visualiser la forme du signal en fonction du temps. Donc le signal va se déplacer, enfin, on va voir le curseur là, qui se déplace de la gauche vers la droite, et on va voir la forme du signal, puisque ici on a une sonde qui permet de récupérer le signal, et on a un point lumineux qui montre la forme du signal, hein, puisqu'il y a un tube cathodique ou un système d'affichage qui permet de montrer la forme du signal. On a donc une sonde, jusqu'ici tout va bien, et on a deux contacteurs qui sont très importants. On a un contacteur qui est, alors il y en a un qui est ici, qui est le contacteur de temps, je pense. Ça, c'est le temps qui est là. Et ici, il y a la tension. Donc, ici, on ajuste finalement la tension en fonction ici de la valeur du signal, hein, pour que ça rentre bien dans l'écran. Donc, on a ici une graduation en valeur en tension. Et ici, on ajuste la valeur ici du temps, c'est-à-dire combien de temps va se déplacer finalement le point pour parcourir l'écran. Et plus précisément, on a sur l'écran, alors là on le voit pas trop, je sais pas si on le voit mieux en zoomant. Où est-ce qu'il est mon écran? Ouais, on voit pas tellement mieux, on le verra mieux sur l'écran tout à l'heure là. En fait, on a des divisions, donc on a des divisions horizontales qui permettent de mesurer plus facilement la tension. Et donc, les graduations ici, elles sont marquées en tension par division. Et on a des divisions verticales, généralement une dizaine, qui sont donc les divisions de temps. Et donc ici, on a notre affichage en temps. Donc on va montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Et donc ces divisions permettent de c'est le quadrillage en fait qui permet de définir soit de calculer ou de mesurer aussi. On peut mesurer alors non pas une fréquence mais une période, la durée d'une période, puisqu'on a un certain nombre d'unités de temps par division, par petit carré, et de tension ici. Donc on peut s'amuser à calculer des tensions maximum, et à partir de là, on peut, enfin tout au moins crête à crête, et donc on peut en définir, du coup, la valeur efficace du signal. Si, évidemment, il n'est pas superposé à une tension continue. Alors, un petit oscilloscope que j'ai récupéré sur Internet. Alors, il est où celui-là? Je pense que c'est ça. Yes, le voilà. Alors, il est où? Le voilà. Alors là, j'ai des petits boutons, là, je vais déjà l'éteindre, voilà. J'ai tout éteint. Je commence par allumer ici mon oscilloscope. Je vois ici que j'ai mon quadrillage dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez voir comme ça plus facilement. Et là, en l'occurrence, j'ai 10 divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 divisions comme ça et 8 divisions horizontales. D'accord ? Et puis, donc ici, j'ai ma base de temps. Donc en millisecondes par division. Et ici, j'ai mes deux channels, donc mes deux signaux. Ici, le signal 1 et le signal 2 qui est ici, puisque ici, j'ai deux générateurs. Donc, je mets en route mon générateur 1, au miracle. Et là, par exemple, là, donc, je peux changer la fréquence. Voilà, je peux changer ici la valeur. Donc là, je suis en kilohertz. Et donc là, voilà, je change la valeur de ma fréquence. Alors évidemment, il y a des fréquences ici que je suis infoutu de lire parce qu'il faut que j'ajuste ici la valeur. Alors attends, hop, j'ai pas encore. Voilà. Donc, par exemple, là, si je suis ici à 4800 Hz, il faut que je sois ici sur 50 microsecondes par division pour pouvoir lire ma fréquence. Et donc, si je veux m'amuser à lire cette fréquence, eh bien, je regarde combien de temps dure ma période. Donc là, ça me fait 4,2 divisions. D'accord ? Donc 4,2 divisions que je multiplie par 50 microsecondes par division. Je prends ma calculette. Je n'ai pas mis sur la webcam, mais je pense que vous allez me croire sur parole. Donc je mets 4,2 multiplié par 50 multiplié par 10 puissance moins 6. Alors, multiplié par 10 puissance moins 6, hein, puisque ce sont des microsecondes. Donc, mon signal dure, enfin, une période va donc durer 2,1 10 puissance moins 4. D'accord ? Donc ça, c'est la durée de ma période. Et lorsque je veux calculer ma fréquence, eh bien je fais 1 divisé par, enfin plus exactement sur ma calculette, je fais 1 divisé par réponse. Et ça me donne 4,762 10 puissance 3. Donc mon 4800 Hz, cela, est pas trop con, parce qu'évidemment, j'ai trouvé ici 4,2, c'est peut-être pas super, super précis, quoi. Et voilà, donc avec ce système-là, ça me permet donc de visualiser ce que j'ai fait. Ici, je peux aussi m'amuser à mesurer ici la valeur efficace. Bon, il se trouve que il est bien fait puisque il est parfaitement centré là. Et donc de crête à crête ici, j'ai donc 6 divisions multipliées par 2 volts par division. Donc ça me fait donc 12 volts crête à crête. Et 12 volts crête à crête, ça me donne donc 6 volts maximum. Et 6 volts maximum, je peux traduire ça en valeur efficace. Donc 6 multiplié par 0,707. Et ça me donne donc 4,2 volts. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'ici, je l'avais préparamétré à 6 volts, ici, de valeur maximum. Mon générateur, ça c'est mon générateur. Je peux m'amuser à faire ici un décalage en tension. Je ne fais rien du tout d'ailleurs. Bon. Ou un décalage de phase. Je peux aussi générer un signal triangle ou des créneaux, enfin un signal carré. Voilà. Et puis ici, j'ai un deuxième générateur et je peux m'amuser, voilà, à mélanger, à visualiser de fréquences. Bon, il y a moins d'intérêt. Ce qui est important, c'est de bricoler autour de cette chose-là, surtout avec des signaux sinus, et puis avoir un déphasage ici de 0, si ça veut bien revenir à 0. Je ne sais pas si on peut facilement le remettre à 0. Est-ce qu'il veut le 0 ici, si je lui mets? Je ne sais pas. Ah bah si, voilà. Pour le refaire un par un, enfin petit à petit, c'est faut cliquer ici sur les deux petits trucs. Là. Hop, allez. Hop. Et voilà, ça revient là. Donc ça, c'est mon oscilloscope. Un petit programme que j'ai mis sur le site internet du Radio Club. Donc si vous voulez le télécharger, ça mange pas de pain. Je reviens sur mon PDF. Voilà, je vous l'ai mis ici le lien. Donc vous allez le trouver assez facilement. Voilà. Je vous ai mis ici un petit mode d'emploi rapide, et maintenant on va passer aux questions d'examen, et après on regardera avec un vrai générateur et un vrai oscilloscope. Alors la source où j'ai trouvé ça, c'est sur internet. Apparemment ça a l'air d'être utilisé par un prof qui a dû faire ça, pour un prof de physique, je suppose, qui a dû bricoler ça. Je l'ai téléchargé il y a un certain moment et je l'ai gardé sur mon PC gentiment. Voilà, j'ai pas trouvé la. Enfin, il n'y a pas de source, donc on ne sait pas. Donc c'est toujours. C'est des petits trucs comme ça qui permettent de mieux comprendre et de s'exercer facilement. Les questions d'examen, alors bêtement, il y en a pas mal. Donc pulsation, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc pulsation d'une fréquence de 1 kHz, c'est 6,28 multiplié par 1000, donc 6280 radians par seconde. Évidemment, pour ceux qui lisent trop rapidement, qui oublie de multiplier par la fréquence, il y a 6,28. 628 pour ceux qui oublient qui multiplient par 100 et non pas par 1000. Et 0,01 pour ceux qui croient qu'on posait la question quelle est la longueur, quelle est la durée de la période. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est évidemment 6280. Fréquence d'un signal de 50 millisecondes. Donc je fais 1 divisé par 0,5, puisque 500 millisecondes, c'est une demi-seconde. Et donc 1 divisé par 1 demi, ça me fait 2. Donc la fréquence est 2 Hz, et non pas 2 kHz, ou tout ce qu'on veut. Ne vous plantez pas dans les zéros. Durée d'une période d'un signal de 2,5 mégas. Donc là, c'est l'inverse, donc c'est on a la fréquence, il faut calculer la durée de la période. Donc je sors ma calculette et je fais 1 divisé par 2 1,5 multiplié par 10 puissance 6, puisque je suis en mégahertz. La réponse, c'est 4, 10 puissance moins 7. Donc c'est 410 puissance moins 9. 10 puissance moins 9, c'est donc les nanos, et donc 400 nanosecondes. Voilà, c'est celle-là. Donc il faut absolument bien se servir d'une calculette, et encore une fois, bien se servir aussi de la table de conversion. Ça, c'est très important, parce que si vous le faites en divisant 1 divisé par 2 500 000, vous allez avoir des tas de zéros, voilà. Et donc, ça va complètement, à mon avis, vous perturber. Vous allez une chance sur deux de vous planter avec toutes les réponses que vous avez ici. Hein, puisque, à part le 2,5 qui visiblement n'est pas bon, les autres, il y a un 4. Et donc, voilà, si vous plantez d'un 0, c'est pas bon. Donc la réponse 400 nanos, on vérifie. Je vous ai mis ici la réponse avec la table de conversion, hein, puisque c'était 4 10 puissance moins 7, donc moins 7, on est bien là, et donc ça fait 400 nanos. Ici mes 2 Hertz, et ici mes 6280 radians par seconde. Fréquence du signal, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Puisque ici, ça fait 5 millisecondes. Ici, on a combien ? On a une, deux périodes. Deux périodes, ce qui veut dire que on s'en fout d'ailleurs, c'est 5 millisecondes par division. Ah non, c'est par division. Alors attendez, c'est plus compliqué que ça. Donc là, j'ai deux périodes. J'ai combien de divisions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 4 divisions pour une période. Donc 4 divisions, ça me fait 20 millisecondes en tout. Et quelle est la fréquence d'un signal de 20 millisecondes ? Ben, je fais 1 divisé par 10 puissance moins 3, 1 divisé par 20 multiplié par 10 puissance moins 3, hein, 20 millisecondes. 1 divisé par 20 multiplié par 10 puissance moins 3, exé, et ça me donne donc 5 10 puissance 1, donc 50 Hz. Donc ça, c'est... Et ces questions-là sont... Alors, je dis pas super fréquentes, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc voilà, soyez pas surpris. À chaque fois, il faut bien regarder ici le nombre de le temps par division. Et donc une division là, c'est ces petits créneaux là, ces petits traits qu'on voit là. Là, c'est une division. 10 volts efficaces, quelle est la tension crête ? Donc j'ai une tension de 10 volts. La tension crête, c'est multiplié par 1,414. Donc 10 fois 1,414, ça me fait 14,14 volts. Voilà. Rien de particulier. Encore une fois, le piège ici, c'est lisez bien crête et non pas crête à crête. Hein. Parce qu'évidemment, dans les réponses, vous voyez, il y a 28,28, c'est-à-dire deux fois la fréquence crête, la tension crête, ou tension max. Une question que j'ai mis là, parce que le fait que ce soit un câble coaxial, on s'en fout complètement. Alors, en l'occurrence, c'est un câble coaxial qui fait 75 ohms d'impédance. Donc dedans, il y a un courant qui a un rapport tension-intensité de 75 ohms. Et donc, la puissance est de 20 watts. Et on vous demande quelle est la puissance crête du signal, donc la puissance maximum du signal. Grosso modo, c'est surtout pour dimensionner convenablement les composants que vous pouvez mettre autour, puisque ils devront au moins supporter la tension crête ici indiquée compte tenu de la puissance. Donc, la tension déjà, donc la tension, donc on a P égale U2 sur R, et donc U est égal à racine carrée de P multiplié par R. Souvenez-vous des triangles, de la loi d'Ohm. Donc, racine carrée de... Alors, je fais ça sur ma calculette. Racine carrée... racine carrée de... J'ouvre ma parenthèse. 20 multiplié par 75. Exé. Ah bah oui, il n'a pas aimé. J'ai pas fermé ma parenthèse. Je ferme ma parenthèse. Exé. Ça me donne 38,73. Et donc ça, c'est ma tension efficace, puisque j'applique ma loi de Joule en l'occurrence. Et pour obtenir ma tension crête, il faut que je multiplie par 1,414. Donc je multiplie par 1,414. Et ça me donne donc 54,76. Je pense que c'est le 55, puisque c'est une valeur à chaque fois arrondie. Voilà, on regarde les réponses. Je vous ai pas mis le triangle de la loi de Joule, mais voilà, vous devriez l'avoir en tête pour retrouver ça. Et voilà. Petite démonstration maintenant. Donc, je vous présente tout de suite. Ça, c'est le montage. Alors, avec mon bel appareil photo, donc un peu mieux que la webcam pourrie là, que j'ai. D'ailleurs, j'en ai commandé une autre. On va voir quand on va la recevoir et si c'est vraiment meilleur. Et là, après, ce sont les écrans que je vais vous présenter. Ici, c'est mon générateur. Et ici, c'est mon oscilloscope. Je vous présente ça. Je passe sur la webcam. Yes. Donc, j'allume mes deux interrupteurs. Interrupteurs. Si ça veut bien rester. Voilà. Donc ça se met en route. Ça se met en route. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc j'ai ici un générateur. Alors ici je suis en kilohertz. Hein, c'est, bah, vous voyez pas. Mais ici je l'ai mis en calibre 50 kHz. C'est-à-dire que ça peut aller une fréquence de 0 à 50 kHz, et ici, j'ajuste ma fréquence. Voilà. Ok. Ouais, mettre une fréquence, tant qu'à faire une fréquence à peu près ronde, 40 par exemple. Voilà, donc je suis, hop, allez, 40 kHz, à peu près, hein, à quelque chose près. Et donc, voilà, sur mon oscilloscope, alors je peux faire varier la graduation ici avec ce bouton-là. Hein, c'est-à-dire que là, je diminue le nombre, il s'est inscrit ici, c'est 20 microsecondes par division. Je vais vous rapprocher de la webcam. De l'écran, parce que c'est ça qui est important finalement. C'est ce truc là qui est important, voilà. Donc vous voyez plus les autres instruments, mais c'est pas grave. Top, c'est celui-là. Voilà, donc on va prendre un... Là c'est plus lisible, et je peux ici ajuster pour que ça démarre au bon endroit. hein, pour que ça démarre ici, à une graduation, ou n'importe. Hein. C'est-à-dire qu'après, il faut que je m'amuse à calculer ici, enfin à compter, où je le mets, si je peux le mettre ici sur une graduation, ici sur un trait. Donc ici, j'en ai un ici. Je vais prendre un crayon qui sera mieux que mes gros doigts, pour vous. Hein, donc ici, là, j'ai une graduation. Je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois. Donc, j'ai une graduation ici. Et ce que je vais calculer, là, c'est le nombre de graduations que j'ai pour faire une période entière. Et donc, là, quand ça revient, finalement, au même endroit. Alors, même si c'est, je ne suis pas exactement au milieu, là, parce que je peux changer ma position. Hein. Là, je peux la bouger. Voilà. Hop. Mais ce qui m'importe, moi, c'est que je me retrouve au même endroit. Après, pour calculer ma tension crête à crête, là, on va faire une autre manière. Donc, combien j'ai de divisions? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis quasiment, je suis quasiment en face, là. Donc, j'ai 6 divisions à 4 microsecondes. Donc, je fais ça à ma calculette. 6 fois 4 multiplié par 10 puissance moins 6. Donc, j'arrive à 2,4 10 puissance moins 5. Ça, c'est donc la durée d'une période. Et donc, je fais 1 divisé par ce chiffre-là. Donc, chez moi, 1 divisé par réponse. 1 divisé par réponse. Exé. Et ça me donne 4,167. Kilohertz, 41,670 kilohertz. Alors je ne dois pas être précisément au bon endroit. Ou, deuxième solution, c'est que mon générateur ne me donne pas exactement la bonne fréquence. Mais, comme je suis un grand fainéant, et que c'est un instrument qui est super. Il y a plein de gadgets. J'ai une fonction, j'appuie dessus, qui me dit sur quelle fréquence je me trouve. Et alors j'ai du mal calculer, j'ai du mal compter, parce que lui, il me dit je suis sur 40,06, enfin un tout petit peu plus de 40 kHz, que ma fréquence elle est légèrement au-dessus de 40 kHz, et que ma période elle fait 25 microsecondes. Donc, voilà. C'est quand même intéressant. Alors, bon, je peux aussi effacer. Voilà. 1, 1, 1. Je veux pas ça. Comment je le retire? Ah non. Comment je le retire? Voilà, hop. Donc ça, c'est ma première manip, calculer la fréquence, calculer la tension efficace. Bah, je vais calculer de la même manière, alors peut-être un peu, c'est aussi un peu pifométré quand si je le fais comme ça sur l'écran. Donc je ne suis pas exactement, il faut que je le mette ici sur la limite haute. Bon, verticale, il est où? Verticale, il est là. Hop. Allez, remonte un petit peu. Voilà, ici je l'ai positionné ici sur un trait, sur une division. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas tout à fait 7 divisions. Ici, j'ai 500 millivolts par division. C'est marqué là. 500 millivolts par division. Donc, j'en ai pas tout à fait 7. On va mettre 7 et puis on arrondira par défaut. 7 multiplié par 500 millivolts, donc 0,5. En crête à crête, ça me donne donc 3,5 volts. 3,5 volts en crête à crête. Et donc, il faut que je divise par 2 pour obtenir la valeur crête. Ce qui me fait 1,75 que je divise, ou plutôt que je multiplie par 0,707. 707. Et ça me donne donc 1,2 volts efficace. On va regarder ce que me dit mon bel instrument, puisque j'ai aussi une fonction qui me permet de calculer la valeur ici. Alors, pic à pic, 3,44 volts. Donc, sur cet instrument qui est en anglais, donc pic to pic, c'est crête à crête en français. Et donc, de cette valeur-là à cette valeur-là, où j'avais dit que ça faisait 3,5, en fait, ça fait 3,42. Et je peux m'amuser ici sur mon générateur à changer la tension. Donc, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là qui me permet de changer la tension de sortie de mon générateur. Alors, mon beau générateur aussi me permet de sortir un signal triangulaire. Voilà un joli signal triangulaire, mais aussi un signal carré. Alors, vous remarquez, je vais peut-être diminuer ici, voilà, la valeur, c'est que le signal carré, quand on le voit à l'oscilloscope, ici les traits, ici, ils n'existent pas. Pourquoi ? C'est qu'en fait le signal il est tellement rapide que l'instrument de mesure n'a pas le temps de tracer le trait. Donc il arrive ici, puis après il remonte. Donc finalement ça c'est des vraies représentations sur un instrument de mesure d'un signal carré. On n'a pas ces traits ici verticaux. D'accord ? Parce qu'en fait, ça va tellement vite du passage de l'un à l'autre, là, que l'instrument n'a pas le temps de tracer le trait. Alors que là, ça ne doit pas être super stable. Hein. D'ailleurs, on voit bien, c'est un trait qui est un petit peu. Qui a tendance à bouger un petit peu. Et donc, ce n'est pas une tension hyper stable. Si ça se trouve, il y a une trace de 50 Hz dans mon générateur. Voilà. Je reviens sur le PDF. Oui, j'ai pas. Je dézoome. Je vous ai pas montré ici. J'ai un câble en fait qui relie les deux appareils. Hein. Donc ici j'ai une sortie là et une entrée là. Et donc on va se servir de ce type d'appareil pour par la suite dans toutes nos expériences. Voilà. Je reviens sur le PDF pour vous souhaiter un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.